tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Emmanuel Macron dévoile une série de mesures en faveur des habitants des quartiers populaires, en particulier la relance des emplois francs. Précision de Ludovic Piétenu, analyse d'Annabelle Grelier dans cette édition. À la veille du congrès d'En Marche, une petite fraction des adhérents annonce leur départ du mouvement, dénonce le manque de démocratie interne. Commentaire de Sophie Delpont. La réforme de l'audiovisuel public, Le Monde, publie un document du ministère qui envisage de regrouper France Télévisions, Radio France et les autres sociétés du secteur au sein d'une holding. La ministre porte plainte et parle de pistes de travail non validées. Enquête de Lise Verbeck dans cette édition. Le Venezuela, déclaré comme attendu en défaut partiel sur sa dette par plusieurs agences de notation. Explication de Nadine Epstein. Et puis, y a-t-il eu un accord secret entre les forces démocratiques syriennes pour laisser sortir les combattants de l'État islamique de leur fief de Raqqa? Enquête de la BBC qui semble le confirmer. Précision de Valérie Crova, invité de la séquence interview. Benoît Hamon, conseiller régional d'Île-de-France, dans la dernière partie de la grande table. Olivia Jesbert.
La sécurité est-elle la première des libertés alors que nous avons accepté l'inscription dans le droit commun de l'état d'urgence? On va reparler de notre conception actuelle de la et des libertés avec le philosophe Michael Fossel qui publie L'avenir de la liberté de Rousseau à Hegel au PUF. Il sera avec nous à partir de 12h55.
Le chef de l'État dévoile donc en ce moment, près de Lille, une série de mesures en faveur des habitants des quartiers populaires. Et il détaille donc en particulier le lancement des emplois francs, un retour des services publics. On parle aussi du recours au testing contre les discriminations. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Antoine.
Vous avez suivi jusqu'à maintenant donc ce discours. Je vous propose d'abord d'entendre un petit extrait de ce que vient de dire Emmanuel Macron.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, avoir une politique pour les riches. Je sais simplement que quand il n'y a pas une économie qui tire tout le pays en avant, quand il n'y a pas des entrepreneurs qui réussissent, quand il n'y a pas des gens qui réinvestissent dans l'économie, les quartiers les plus en difficulté ne se portent pas bien. Pas une politique pour quelques-uns. Et on ne viendrait pas faire là un virage pour quelques autres. C'est en effet cette cordée dont j'ai parlé. Mais c'est aussi le fait que la simplification, l'accélération de nos procédures, une politique favorable à l'entrepreneuriat, à la mobilité économique, une politique d'ambition pour les entrepreneurs et les entreprises, elle doit aussi tirer tous ces quartiers en difficulté.
Voilà, Emmanuel Macron, donc premier de cordée, Ludovic Piétenu. Le président tente aussi, à travers l'annonce de ces mesures, à échapper à l'image de président des riches.
Oui, il l'a dit, ce n'était pas une politique pour quelques-uns ou un virage pour quelques autres. Il est convaincu, comme il le dit très souvent, qu'il peut libérer les énergies, qu'il peut mobiliser l'intégralité des politiques publiques, la responsabilité de tout son gouvernement. Emmanuel Macron préfère cela, vient-il de dire aussi, plutôt que de parler de seulement politique de la ville. Concrètement, parmi les éléments de ce discours, Antoine, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Il promet de redonner l'effectivité des droits. Ce sont ces termes, remettre la République au cœur de nos quartiers. C'est le retour, en début d'année prochaine, par exemple, d'une forme de police de proximité, la police de sécurité du quotidien. C'est aussi, depuis la rentrée, le dédoublement des classes de CP dans les quartiers prioritaires. C'est la lutte aussi contre les discriminations. Ça passe par des opérations de testing dans les entreprises, avec des possibles sanctions à la clé, dit-il, et la publication des résultats. Car, disait-il hier soir à des jeunes à Roubaix, ces entreprises font grandement attention à leur réputation. Pour la lutte contre le chômage, l'accent est mis sur le dispositif des emplois francs, une expérimentation à partir du début de l'année prochaine, on va en reparler. Emmanuel Macron promet également d'augmenter le budget de l'ANRU, l'agence de rénovation urbaine, et le maintien de la dotation de solidarité urbaine. Ça, c'est un message politique pour les élus locaux en colère. Bref, il aura fallu 6 mois pour entendre le chef de l'État parler de ces quartiers, avec sous couvert d'efficacité et de pragmatisme, le retour de dispositifs déjà éprouvés par le passé. Cela ne passe pas pour l'exécutif par un déversement d'argent public, mais bien par la généralisation d'expériences déjà tentées dans certains quartiers. On appelle ça en anglais du bottom-up, je crois, vous savez.
Personne ne perdra le moindre crédit en 2018, donc l'année prochaine, effectivement, affirme Emmanuel Macron pour notamment les communes concernées. Mesure phare, donc, avant d'entendre notre invité sur ce thème, mesure phare du dispositif, les emplois francs. évidemment, c'est un dispositif qui existe déjà depuis la présidence Hollande, qui n'a pas vraiment donné beaucoup de résultats. Mais puisque la méthode semble la même, Annabelle Grolli, on peut se demander ce qui peut faire penser que peut-être cela marchera mieux cette fois-ci que précédemment.
Alors, la mesure, en effet, avait déjà été expérimentée entre 2013 et 2015 sous le gouvernement Hollande. Elle s'est soldée par un échec cuisant, au point d'avoir été abandonnée un an plus tôt que prévu. Pour vous donner une idée, fin 2014, seuls 250 jeunes avaient été embauchés en emploi franc, alors que le gouvernement en attendait au moins 2000 la première année, et qu'il en prévoyait 10 000 sur 3 ans. En fait, l'équipe Hollande s'était vite aperçue de l'effet d'aubaine du dispositif, car les contrats signés ne concernaient que des jeunes qui n'auraient eu aucun mal à trouver un emploi par leurs propres moyens, alors que l'objectif visé était de favoriser l'embauche de jeunes sans formation et sans réseau. Critères trop rigides, manque de lisibilité, les leçons de l'expérience précédente ont été tirées, assure l'équipe Macron, qui estime que le principe est bon, mais que le dispositif doit être relancé avec plus d'ambition. Fini l'obligation d'être âgé de moins de 30 ans, d'être inscrit à Pôle emploi depuis au moins un an, le nouveau dispositif a été élargi à tout demandeur d'emploi, quel que soit son âge et sa formation, seul critère d'éligibilité, qu'il habite un quartier dit prioritaire. Pour l'employeur, l'incitation financière sera plus élevée, la prime sera de 15 000 euros pour un CDI réparti sur 3 ans, ce qui équivaudrait à une exonération totale des charges, et pour un CDD, elle sera de 5 000 euros réparti sur 2 ans. Est-ce que cela va mieux marcher? Est-ce que ça va profiter à ceux qui en ont besoin? La phase d'expérimentation prévue devrait répondre en partie à ces questions. En tout cas, l'équipe Macron préfère les emplois francs parce qu'ils sont différents des contrats aidés qui ont tendance à inscrire de façon durable les personnes dans un statut précaire, disent-ils.
Annabelle Grolier, merci beaucoup. Benoît Hamon, bonjour. Je voulais un peu bouillir sur votre siège. L'image du premier de cordée qui tire finalement les autres derrière lui, est-ce que ça vous convainc ou il y a un défaut? Bon,
d'abord, je l'entendais dire, il ne sait pas ce que c'est une politique pour les riches. Il y a des millions de gens qui savent ce que c'est qu'une politique contre les pauvres. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, par le démantèlement des services publics, par la remise en cause des contrats aidés, par la baisse des dotations aux collectivités locales, par la baisse des APL, par la mise en œuvre d'une sélection à l'université, etc., etc., fait une politique contre les plus vulnérables dans ce pays. Je vais commencer par ça, et ensuite dire 15 000 emplois francs, ce sont des emplois aidés. Mais aidés pour qui? Pour des entreprises privées. Là où auparavant, il y avait des contrats aidés qui bénéficiaient aux collectivités locales et aux associations, et on est en train de supprimer d'une main 200 000 contrats aidés qui assuraient une mission d'intérêt général pour en créer de l'autre 15 000 qui vont à des entreprises.
Mais objectivement, vous répondez pas sur la question sur l'état d'esprit, j'allais dire économique, philosophie économique. On va favoriser la libération des énergies.
Oui,
ceux qui effectivement sont capables de tirer.
Soyons concrets.
L'économie.
En moyenne, grâce à la suppression de l'ISF, les plus riches en France vont gagner 1,5 millions d'euros. Supplémentaires. Ils vont économiser 1 500 000 euros supplémentaires. Donc c'est bien. Est-ce qu'ils vont le réinvestir dans les quartiers? Vous allez me dire qu'en enrichissant M. Bolloré à Trappes, au Merisier, ça va aller mieux? Qu'en enrichissant...
Ça peut générer effectivement une activité?
Non, aucune. Absolument aucune. Personne ne croit ça. C'est une théorie absurde qui prétend que, à partir du moment où vous mettez un peu plus de charbon dans la locomotive, les wagons qui sont derrière, ceux qui pèsent de trop, ceux qui sont une charge pour la société, avanceront plus vite. Moi, je vais vous dire, la locomotive, elle est partie de la gare, elle fonce et on continue à alimenter en charbon la locomotive et pendant tout le reste du temps, les wagons ils sont en gare. Et avec des millions de Français qui désespèrent d'une politique aussi absurde. Je vois pas en quoi le fait de donner 1 million d'euros à M. Bolloré ira améliorer la vie des quartiers de ce pays. C'est absurde et Emmanuel Macron qui est intelligent le sait. Et s'il le fait, c'est bien parce qu'il sait que sa base sociale et électorale, ce sont les plus grandes fortunes de ce pays et il les récompense.
Benoît Hamon, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. On vous retrouve pour la séquence interview dans un petit moment.
À la veille du congrès d'En Marche, une petite fraction des adhérents annonce leur départ du mouvement. Il s'agit pour la plupart de simples adhérents, mais aussi des élus, des animateurs de comités locaux ou encore des référents issus de toute la France.
Oui, ce sont les 100 démocrates, comme ils se sont surnommés, qui publient donc une tribune dans laquelle ils dénoncent effectivement le manque de démocratie au sein de la République En Marche, notamment pour choisir la nouvelle direction du parti. Sophie Delle.
Oui, c'est une grande déception et une critique virulente qu'ils expriment. Ils rappellent les tentatives des marcheurs en colère cet été pour réclamer plus de démocratie au sein de la République en marche. Le mépris et l'arrogance qu'ils ont essuyés, les menaces ou les tentatives d'intimidation ne sont pas des pratiques bienveillantes et laissent à penser que la République en marche marche désormais sur la tête, écrivent les 100 signataires du texte qui se présentent comme 100 humanistes, étudiants, ouvriers, universitaires, médecins, juristes, enseignants, travailleurs sociaux, retraités. Mais d'autres marcheurs, pourtant très critiques au moment des désignations pour les élections législatives, fustigent cette initiative qui proviendrait en partie, selon eux, d'anciens membres de partis politiques qui ne trouveraient pas leur place dans le mouvement. Mais ces marcheurs passés de l'insoumission à la sécession posent une question sensible. Comment expliquer que les comités se soient vidés de leurs marcheurs 5 mois seulement après l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron? Leur départ serait dû, je cite, à une souffrance éthique dans un vide idéologique navrant où seul demeure le jeu pervers de la courtisanerie censé appartenir à l'ancien monde politique, notamment le prochain sacre de Christophe Castaner élu à la tête du parti avant l'heure en l'absence de concurrents. Si leurs membres, leur nombre reste restreint à ces 100 démocrates, ils sont quand même donc une centaine de personnes par rapport aux 380 000 marcheurs recensés sur la plateforme en ligne. Le poids des mots et la critique acerbe pourraient passer du caillou dans la chaussure à un boulet au pied des marcheurs dans la mutation engagée du mouvement.
Sophie Delpont, merci beaucoup. Bon, un tout petit mot, Benoît Hamon, là-dessus, ça risque pas d'arriver dans votre mouvement du 1er juillet.
Non, mais je pense que quand on lève une espérance démocratique, en l'occurrence, il faut essayer d'être à la hauteur de cette espérance-là. Et manifestement, le choix par Emmanuel Macron de son successeur ne remplit pas les canons les plus élémentaires de la démocratie. Voilà, c'est tout. Après, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur cet épisode-là.
Peut-être que Michel Fossel, bonjour, qui vient d'arriver dans le studio, invité à la dernière partie de la Grande Table, philosophe, a quelque chose à nous dire sur la manière dont la démocratie aujourd'hui s'organise dans un nouveau cadre. On a le sentiment d'une évolution qui pourrait faire poser des questions.
Vous avez prononcé le mot équivoque, nouveau, puisqu'on annonçait beaucoup un nouveau monde et que par conséquent ça crée des attentes peut-être un petit peu disproportionnées chez ceux qui y croient. Évidemment, rien n'est pire pour un nouveau monde que de ressembler à l'ancien. Mais je suppose
donc
que
c'est pas pire que l'ancien quand même.
C'est pas pire que l'ancien, mais c'est pire dans la mesure où les espérances que portait le nouveau ou supposait-elle s'avèrent finalement assez décevantes pour ceux qui y adhéraient.
Michel Fessel, on vous retrouve donc pour L'avenir de la liberté, votre livre opus, dans la dernière partie de la Grande Table.
Midi 42 pour l'heure sur France Culture. La ministre de la Culture, justement, Françoise Nyssen, annonce son intention de porter plainte contre X après la publication de documents internes contenant des pistes de travail pour réformer l'audiovisuel public.
Article publié en ligne par Le Monde hier qui indique avoir eu accès donc à un document du ministère qui envisage de regrouper France Télévisions, Radio France et puis les autres sociétés aussi du secteur au sein d'une holding et de supprimer également France O. Selon le journal, ce document est la contribution donc du ministère au comité d'action publique 2022. C'est le comité qui est chargé par Matignon de proposer ces réformes et des économies aussi, bien sûr, pour le service public. Bonjour Lise Verbeck.
Bonjour.
Alors pour la ministre, donc, ce sont des pistes de travail qui n'ont pas encore été validées et on y retrouve toutefois, il faut bien le dire, l'esprit de toute future réforme.
Alors ce document de travail du ministère de la Culture, censé rester confidentiel, a été mis en ligne ce matin sur le site du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Page 27, donc, on peut y lire les propositions d'évolution de la politique publique concernant l'audiovisuel, avec dans la colonne des pistes de réforme, notamment, vous l'avez dit Antoine, regrouper France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA dans une seule et même entité pour, je cite, « aligner et dégager des synergies ». Écrit noir sur blanc également, supprimer France O, la chaîne des Outre-mer, basculer la chaîne France 4 et la radio Move sur Internet, rapprocher les réseaux de France 3 et de France Bleu ou encore la reconfiguration des orchestres de Radio France. Enfin, dernière piste, retirer au CSA le pouvoir de nommer les patrons des entreprises de l'audiovisuel public. Le choix reviendrait alors au conseil d'administration des sociétés concernées. Voilà pour les pistes. Page suivante du document interne intitulé « Gains provisionnels ». Il faut des économies supplémentaires, indique le document sans plus de détails. Quant à la mise en œuvre de ces propositions, on peut y lire, je cite, « qu'il y a un risque de très forte réaction des personnels et des élus locaux à attendre, car, je cite toujours, les départs non volontaires sont difficiles à éviter. En clair, des suppressions de postes sont envisagées. Le ministère de la Culture est donc bien conscient du caractère explosif de ces pistes de travail et la réaction à ces fuites du document interne prouve bien l'embarras. Dans un mail envoyé à toutes les rédactions hier soir à 23h, Françoise Nyssen indique qu'elle porte plainte contre X après, je cite, cette diffusion de documents provisoires qui n'avaient pas vocation à être rendus publics.
Lise Verbeck, merci. Comme prévu, le Venezuela a été déclaré en défaut partiel sur sa dette par plusieurs agences de notation, quelques heures seulement après deux réunions de créanciers qui ont eu lieu hier à Caracas, l'une à Caracas et l'autre à New York. Standard & Poor's notamment indique que le Venezuela est dans l'incapacité de rembourser 200 milliards de dollars. Nicolas Maduro assure, lui, vouloir encore négocier avec la Russie, mais aussi avec la Chine, qui sont deux de ses alliés auxquels son pays doit respectivement 8 et 28 milliards de dollars. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Voilà pour les milliards. Conséquences concrètes maintenant pour les Vénézuéliens.
Oui, les retombées pour la population risquent d'être terribles. Nous aurons beaucoup plus faim, estime un fonctionnaire vénézuélien qui raconte qu'il a déjà perdu 15 kilos, qu'il perd une journée de travail par semaine pour chercher de quoi manger et qu'il passe 12 heures à faire la queue qui se termine au mieux par 2 litres d'huile, mais le plus souvent à la fin, il ne peut rien acheter car il n'y a plus rien. La vie au jour le jour à Caracas ressemble à ce qui se passait il y a 30 ans à Varsovie, à Bucarest. La liste des pénuries s'allonge quotidiennement. Les médicaments sont introuvables ou à des prix exorbitants. Un seul comprimé pour une chimiothérapie est vendu à 5000 bolivars, se plaint une mère de famille. Faute d'argent, elle a renoncé à se soigner. Même chose pour les aliments, ils sont rares ou très chers. Pour se ravitailler, la population dépend des sacs d'aliments à tarifs subventionnés, fournis par le gouvernement une fois par mois pour compenser les pénuries. Un sac contient par exemple 2 kg de haricots rouges, 1 kg de riz, 2 litres d'huile, 1 kg de lait en poudre et 4 kg de farine. De quoi nourrir une famille de 5 personnes pendant une semaine. Une ONG vénézuélienne a calculé qu'il fallait 6 salaires minimum, le revenu minimum est en dessous de 9 dollars, pour pouvoir s'acheter le panier de base de la ménagère. Le Venezuela manque de tout, y compris de sécurité. La violence est un véritable fléau, notamment les guerres entre les bandes rivales font du pays l'un des plus dangereux au monde, avec plus de 21 000 homicides l'an dernier, soit 70 pour 100 000 habitants. Seule exception aux pénuries, l'eau, le gaz, l'électricité, dont les tarifs sont quasi gratuits.
Nadine Epstein, merci.
Midi 46 sur France Culture. Y a-t-il eu un accord des forces démocratiques syriennes pour laisser sortir les combattants de l'État islamique de leur fief autoproclamé de Raqqa? C'est ce qu'affirme en tout cas la BBC dans une enquête publiée aujourd'hui.
Mais c'est un accord qui consistait donc, selon la chaîne britannique, à minimiser les pertes humaines au moment de la chute de Raqqa et à maintenir aussi de bonnes relations entre les Kurdes qui mènent le combat et les communautés arabes qui les entourent. Bonjour Valérie Crevin.
Bonjour.
Donc vous avez lu cette enquête pour nous, qu'est-ce que vous en pensez?
Le sale secret de Raqqa, c'est le titre de cette enquête. Les auteurs ont interrogé des dizaines de personnes, notamment des chauffeurs de bus et de camions qui ont été payés pour transporter les combattants de Daesh en dehors de Raqqa. Ils pensaient au départ qu'il s'agissait uniquement de familles, mais rapidement, ils ont dû se rendre à l'évidence. Dans des séquences filmées, on voit des hommes armés assis sur des remorques. Un conducteur parle d'un convoi de 5 à 7 kilomètres de long qui comprenait près de 50 camions et 13 bus. L'un des chauffeur explique qu'un camion a même dû être réparé car son essieu a cédé à cause du poids des munitions. Parmi les combattants, il y avait des étrangers venus de France, de Turquie, du Pakistan, d'Arabie Saoudite ou de Tunisie, selon les conducteurs des véhicules. Au total, ce sont toujours selon la BBC, 250 combattants de l'État islamique qui ont été autorisés à quitter Raqqa avec 3500 membres de leur famille. Sur la route qui les menait en direction de l'est de la Syrie, près de la frontière irakienne, des témoins disent avoir entendu des avions de la coalition survoler le convoi. Si elle n'a pas participé aux négociations qui ont conduit à l'accord, la coalition occidentale contre l'EI a confirmé qu'elle surveillait le convoi depuis les airs. Libérés de Raqqa, certains membres les plus recherchés de Daesh se sont échappés à travers la Syrie et au-delà, affirment les auteurs de l'enquête. Malgré les dénégations de la coalition, des dizaines de combattants étrangers ont rejoint l'exode. Des combattants aguerris dont beaucoup n'ont pas encore fini de se battre, conclut l'enquête remarquable de la BBC.
Merci Valérie Crova. Une perquisition en cours en ce moment au siège de Lafarge à Paris, soupçonné d'avoir indirectement financé, on le sait, des groupes djihadistes en Syrie, dont l'organisation État islamique. L'enquête s'attache à déterminer les liens qu'a pu entretenir le géant du ciment, notamment avec l'EI, pour contribuer à faire fonctionner en 2013 et 2014, malgré le conflit, une cimenterie à Jalabiya, dans le nord du pays. 12h49, séquence interview avec donc Benoît Hamon, conseiller régional d'Île-de-France, fondateur du mouvement du 1er juillet. Benoît Hamon, vos militants se retrouvent le 2 décembre au Mans pour un moment de refondation au cours duquel votre mouvement sera donc rebaptisé et structuré. 2 décembre, bon, c'est une date pour
oui,
un coup d'État, mais pas forcément...
Le sacre...
C'est pas de forcément Napoléon, vos Austerlitz. Et... Oui, non, mais c'est aucun.
Vous ne prenez pas pour Emmanuel Macron.
Je n'ai pas réservé la basilique Saint-Denis, je vous rassure. Non.
Est-ce que vous sentez du vent dans les voiles? Le pape n'était pas disponible non plus. Donc,
pardon.
Vous sentez du vent dans les voiles de votre mouvement?
Je pense qu'il y a beaucoup d'aspirations à la fois à ce que la gauche retrouve une place, beaucoup d'aspirations à penser un modèle de développement plus patient, bienveillant, à se réapproprier la question démocratique et la qualité de la décision démocratique. Je pense qu'on en parle beaucoup de la démocratie, mais je trouve qu'on y apporte peu de soins. Voilà, autour de ces questions-là, nous allons non pas refonder un mouvement, nous allons fonder un nouveau mouvement, plus horizontal que ce que nous avons connu, en tout cas sortir de nos enclos passés, ceux dans lesquels nous militions et qui étaient peut-être un peu trop étroits. Pourquoi ? Parce qu'on y récitait une sorte de prêt-à-porter politique et idéologique qui correspond plus du tout à mes yeux à ce qu'est la demande d'une grande majorité d'électeurs aujourd'hui, d'un projet qui se projette vers l'avenir, qui pense ce que j'ai appelé pendant la présidentielle un futur désirable, c'est-à-dire un nouveau rapport à la croissance, un nouveau rapport au travail, un nouveau rapport à la démocratie et au vivre ensemble. Autour de ces questions-là, on va travailler, penser, militer, faire des campagnes, et c'est tout ça qui démarre à partir du 2 décembre.
Avec un nom déjà, peut-être, pour rassembler ça
sur lequel on travaille et qui sera rendu public le 2 décembre.
Merci. Sophie Delpont.
Benoît Hamon, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, vous relancez le 2 décembre, le mouvement du 1er juillet. Pourquoi ça a pas bien pris la première fois?
Non, parce qu'on est étape après étape. On a, ce qui est assez incroyable, c'est d'avoir déjà 30 000 membres en quelques mois, d'un mouvement qui s'est créé très récemment. La seconde étape, c'est de poser les fondations de ce mouvement, de dire à quelle histoire il se rattache, aux quels grands principes. Et on rappellera à la fois notre attachement à une culture de la justice sociale qui est très enracinée dans l'histoire du mouvement ouvrier, mais aussi notre attachement à la culture de l'écologie politique. Autour de ces grands engagements, nous allons poser une charte, dire de quelle manière nous fonctionnerons et fixer d'autres rendez-vous et surtout installer ce mouvement comme un des mouvements qui participent de la régénération de la gauche.
Et un autre mouvement qui fixe un rendez-vous, c'est le 25 novembre, la convention de la France insoumise. Est-ce que vous allez y aller ?
Si nous y sommes invités, avec plaisir. Moi, j'aspire à ce que les gauches se parlent. On n'appartient pas exactement à la même tradition. On ne pense pas, par exemple, à la question du travail de la même manière. On ne pense pas à la question européenne. Moi, j'observe les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon de la même manière. Moi, je considère que si... il doit y avoir un engagement européen aujourd'hui. Ce n'est pas pour renoncer au fait que l'Union soit une union transfert, solidaire, mais au contraire pour essayer de la renforcer. Moi, mon engagement dans les mois qui viennent ira à faire en sorte que si on rejette le modèle néolibéral, on ne rejette pas pour autant le projet européen. Il y a de la place pour faire de la politique en Europe. Et j'observe qu'il y a deux blocs qui se dessinent en France. Un bloc qui dit vive l'Europe, mais n'y faisons pas de politique. C'est un peu l'agenda néolibéral de Monsieur Macron qui continue les politiques austéritaires, continue à favoriser la mise en concurrence des économies et donc des peuples entre eux. Puis une forme de riposte à cet agenda néolibéral qui dirait « vive la politique mais hors de l'Europe ». Moi je pense qu'il y a au contraire de la place, il y a même une urgence à concilier un engagement européen avec une vision du progrès. Et c'est ce que dans les mois qui viennent, avec d'autres, en Europe d'ailleurs, nous mobiliserons de façon à pouvoir faire émerger ce troisième bloc.
Il n'y a pas de solution à l'intérieur d'un cadre national, par exemple, pour une mesure qui avait été annoncée par vous pendant la campagne et qui a fait florès et qui en tout cas qui a beaucoup fait de commentaires, c'est cette mesure de revenu universel. Sera par exemple au cœur de votre programme?
Évidemment, moi je peux souhaiter que ça se fasse au niveau européen, mais ça n'a de sens au point de départ qu'à l'intérieur des nations. Moi je reste attaché à l'idée que parce que le travail va se raréfier en raison de la révolution numérique, il faut penser la protection sociale de demain, du 21e siècle. Le revenu universel peut être un des piliers de cette protection sociale. En faisant en sorte de briser un monopole, c'est le monopole de la distribution des revenus par l'emploi. Demain, moi je souhaite que dans nos sociétés, notre existence ne soit pas seulement déterminée par l'emploi que l'on occupe, mais que le revenu universel nous permette de créer, d'innover, de penser, de nous former, en plus d'un emploi ou sans emploi. Et c'est cette révolution-là qui sera menée dans les années à venir, et je pense que comme toutes les idées nouvelles, elles connaissent le même sort. Au début, elles font rire, elles amusent, et le revenu universel a amusé. Ensuite, elles inquiètent. Elles sont jugées comme une menace par l'ordre en place. Nous sommes aujourd'hui dans ce moment-là. Et à la fin, elles s'imposent. Et je suis absolument persuadé que le sens de l'histoire, c'est de construire une protection sociale au cœur de laquelle il y aura le revenu universel d'existence.
Dernière question, Sophie Delmont.
Au cœur de l'opposition, Jean-Luc Mélenchon qui admet que Emmanuel Macron a le point Vous en pensez quoi? Ça vous agace?
Je pense qu'il ne faut pas le lui donner, pour une raison simple. C'est que les conséquences des ordonnances travail, elles commencent maintenant. Elles vont commencer dans les entreprises où on perdra du pouvoir de négocier, où on sera licencié plus facilement et où on sera précaire plus longtemps. Et c'est la raison pour laquelle je ne vois rien qui justifie de donner le point à Emmanuel Macron. Au contraire, les vraies batailles commence maintenant.
Enfin, le point, c'est pas en ce sens qu'il a quand même gagné la partie, au sens qu'il a fait passer sa réforme sans qu'il y ait de contestation.
Oui, mais moi, on n'est pas dans un combat de boxe dans lequel on compte les vainqueurs et les perdants au moment des batailles parlementaires. La réalité, c'est ces ordonnances travail sont-elles bonnes pour l'emploi et sont-elles bonnes pour les salariés? Il y aura plus de souffrance au travail. Pourquoi? Parce que les salariés auront moins de droits d'une part, mais surtout moins de pouvoir dans l'entreprise. Eh bien, moi, je pense que la réalité des conséquences de ces ordonnances, elle est pour les semaines, les mois qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle il faut rester mobilisé, et ce qui justifie aujourd'hui que je trouve finalement un peu curieux de donner le point à Emmanuel Macron. La réalité, c'est que aujourd'hui, beaucoup, et demain, beaucoup de gens souffriront des conséquences de ces politiques-là.
Alors, en arrivant, vous vouliez parler des islamo-gauchistes, vous en aviez assez d'être traité d'islamo-gauchiste. On n'a pas le temps d'en parler, donc vous avez quand même 15 secondes.
Non, mais mais je trouve qu'il y a encore un débat aujourd'hui autour de cela, et c'est assez frappant que ceux qui se posent comme défenseurs de la République votent des mesures qui affaiblissent la République tous les jours. La réalité de la République aujourd'hui, c'est qu'elle souffre, qu'on donne moins de moyens aux associations dans les quartiers, qu'on donne moins de moyens aux collectivités locales, qu'on organise une université qui sera de moins en moins républicaine parce que de plus en plus inégalitaire. Et c'est frappant de voir qu'une partie de ceux qui sont partis de la gauche, aujourd'hui, n'ont d'ennemis qu'à gauche, et pour finalement accepter que la question sociale, la question démocratique soit reléguée au second plan, et pour ne faire de la question identitaire que le seul moyen pour eux d'exister. Je pense évidemment à Manuel Valls.
Merci beaucoup Benoît Hamon. Je pense qu'on va reprendre, d'ailleurs ressaisir tous ces thèmes dans la dernière partie de la Grande Table avec notre invité. Un petit mot du temps, plus calme, toujours gris sur le nord-est, des températures de 6 à 16 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.